Amen. Alors ce matin, j'ai un message que j'aimerais vous partager après ce préambule de remerciement. Savourons ce que Dieu fait. Amen. C'est une grâce, c'est une journée de fête. Ce n'est pas une journée où on va se mettre la pression, où on va s'inquiéter, où on va s'angoisser, où on veut que tout soit parfait. Ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait, parce que ça ne le sera qu'au ciel. La perfection sera au ciel. Cependant, on veut s'asseoir un peu, effectivement, et réaliser avec grâce, avec bonheur, tout ce que Dieu a fait. Si nous sommes là, c'est un pur effet de la grâce de Dieu. C'est une pure... Il n'y a pas de mérite. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous n'avons pas de meilleurs talents. Nous n'avons pas de meilleures compétences. On n'est pas plus intelligent. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est Dieu et Dieu est fidèle. Et tout ce que nous avons dans notre vie, c'est un effet de la grâce de Dieu. Et moi, je veux célébrer la grâce de Dieu. Tout ça, ce n'est pas un temple à la gloire d'un style de musique, un temple à la gloire d'un prédicateur, à la gloire d'un adorateur. C'est un temple à la gloire de Dieu. Dieu doit être honoré. On ne vient pas se faire un culte, on vient offrir un culte à notre Dieu. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, on doit toujours avoir conscience que tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Pourquoi on a voulu une église tip-top ? La Bible dit « mon œuvre est pour le roi ». La Bible dit encore « maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence ». Parfois, on peut dire « c'est pour le Seigneur ». Moi, je suis ravi dans mon cœur de ce que la maison de Dieu soit plus neuve et plus belle que ma propre maison. Oui ou non ? Il y a des endroits où la maison de Dieu s'écroule et ça ne nous émeut pas forcément. Et je crois que c'est un vrai problème de fond, un vrai problème spirituel. Car il y a des transcriptions, des expressions de la spiritualité. La Bible dit que l'extérieur, il y a un extérieur qui convient à la piété. Quand Dieu a demandé que le temple de Jérusalem soit bâti, que Salomon l'a construit, le temple de Jérusalem était magnifique. Les gens venaient de loin, non seulement pour écouter la sagesse que Dieu avait mise dans le cœur de Salomon, mais la Bible dit qu'ils étaient également estomaqués, émerveillés par les matériaux, le choix des serviteurs, tout ce qui se faisait, l'organisation, c'était une source d'inspiration pour ailleurs. Et nous prions aussi afin que l'Église soit une voie parmi d'autres voies d'excellence, de réussite, de bénédiction. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, avec Dieu, tout est possible. Ça va te détendre, ça va te faire du bien par rapport à toutes les circonstances que tu traverses aujourd'hui. Sur mon iPad, j'ai une petite bulle qui dit « déjeuner à midi ». Nelson Mandela a dit ceci, « Après avoir gravi une haute colline, on se rend seulement compte qu'il y a encore beaucoup de collines à gravir. » C'est une belle étape ce que nous vivons, mais j'aimerais vous annoncer de la part du Seigneur que Dieu a encore d'autres choses à nous faire gravir, que ce n'est pas une fin en soi, Dieu veut encore que nous allions de l'avant, il y a encore des batailles à remporter, il y a encore des combats à remporter et il y a encore des âmes à sauver, amen. Cette ville, pour Jésus, n'a pas encore été sauvée. Dans cette ville, je crois, il y a un grand nombre de personnes qui vivent dans la captivité, qui vivent dans le péché, qui vivent dans la noirceur, dans les ténèbres spirituelles. Et c'est par l'Église que ces hommes, eh bien, seront sauvés pour ce temps et pour l'éternité. Il y a quelque temps de cela, je veux le vivre ce matin comme une continuité, mais en même temps comme une journée d'ouverture. Nous entrons dans une nouvelle saison. Alors je vous annonce de la part du Seigneur que nous entrons dans une saison d'été. Maintenant, pasteur, on sort de l'été, voyons. Eh bien non, je vous annonce que nous entrons dans l'été spirituel. Nous entrons dans une saison estivale avec le Seigneur. Alors ce matin, j'aurais pu vous parler du travail, parce qu'il faut travailler dans le royaume de Dieu. Mais je ne vais pas vous parler du travail, je vais vous parler de comment entrer dans cette nouvelle saison, en continuité avec ce que j'ai développé il y a quelque temps de cela, sur le combat de la foi, le combat spirituel. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 13e. Éphésiens, chapitre 6, verset 13e. Je ne sais pas si on est encore opérationnel pour voir les versets sur les écrans, je ne crois pas, mais ça va bientôt venir. Ah, punaise, ça va plus vite que ce que je pense ici, hein. C'est glorieux. Hein. Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammé du malin. Amen. J'aimerais parler ce matin de cette dimension de la foi que nous sommes appelés à manifester dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul est en prison. Il a la révélation que nous faisons face tous et toutes dans toutes sortes de circonstances, de situations, derrière le voile, au-delà du voile, il y a des enjeux d'ordre spirituel. Et Paul nous avertit en disant que derrière même nos relations, derrière notre travail, nos projets, nos ambitions, etc., il y a toujours un enjeu spirituel, il y a toujours une guerre. Et il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations qui guerroient dans les lieux célestes. Et pour pouvoir, eh bien, vivre victorieusement dans la vie que Dieu a préparée pour nous, l'apôtre Paul nous montre l'importance d'être équipé de la tête aux pieds. On a parlé la dernière fois des chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Ce matin, il y avait un bon zèle hein, à nos chaussures, oui ou non ? Pas parce qu'elles sont neuves, parce qu'il faut renouveler nos chaussures, n'est-ce pas, chaque année, mais parce qu'il y a de la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on entend Dieu nous parler, c'est là qu'on ressent la présence de Dieu, c'est là que, eh bien, on peut exprimer notre louange au Seigneur, à qui il est doux, pour des frères, bon, les sœurs aussi, bien entendu, psaume 133, à qui il est doux pour des frères, des sœurs, amen, de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ce matin, on est au bon endroit. Ce matin, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction bon marché, ce n'est pas quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs. Lorsqu'on est rassemblé, lorsque le corps de Christ est rassemblé, il vit, il expérimente une bénédiction qu'il n'expérimente nulle part ailleurs. Donc merci Seigneur pour l'opportunité et la grâce qu'il nous offre de nous réunir ce matin. Alors nous avons du zèle ce matin. Et puis, la Bible parle non seulement des chaussures que donne l'évangile de paix, le zèle, mais la Bible parle du bouclier de la foi qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et Paul, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous, prenez par-dessus tout cela. C'est-à-dire, en particulier, n'oubliez pas la confiance en Dieu. Ce mot « foi » peut être également traduit par « fidélité ». Ou attachement. Et Paul est en train de dire ici, revêtez-vous de fidélité, d'attachement, de confiance dans le Dieu inébranlable. Parce qu'il y a un adversaire. Tout à l'heure, Michael l'exprimait pour introduire ce chant, nous ne tremblerons pas en Dieu et notre confiance. Il y a de l'adversité, il y a des combats, il y a des coups durs dans la vie. Il y a des moments où dans la vie, on est chahuté, on est ébranlé dans notre cœur, dans notre pensée. Et il est important que nous soyons revêtus, que nous prenions le bouclier de la foi. Ce bouclier de l'époque, c'est un bouclier qui n'a rien à voir avec les petits boucliers qu'on peut imaginer. C'était littéralement aussi grand que des portes des portes de maisons. C'était des matériaux, bien sûr, très, très durs, trempés, solides. Et ces boucliers permettaient aux soldats, aux guerriers, eh bien, de pouvoir faire face à l'adversité sans que celui-ci ne soit atteint. Et l'apôtre Paul dit littéralement ce qui fait que dans la vie, lorsqu'on vit des combats, des luttes, qu'on traverse des saisons où les choses nous dépassent complètement, ce qui fait la différence, c'est notre position de foi, la solidité de notre foi. Il existe un combat dans l'invisible. Invisible ne veut pas dire irréel. Il existe un combat dans lequel nous sommes déjà entrés et dans lequel nous sommes déjà vainqueurs. Parce que nous sommes au bénéfice de la victoire de Jésus. Mais vous savez quoi ? Jésus aime nous associer à son œuvre. Et il n'y aura pas de nouvelle victoire, de nouvelle saison, sans de nouveaux combats. En réalité, les combats, les douleurs, les souffrances sont simplement le symptôme, le signe qu'on est en train de donner naissance à quelque chose. La plupart d'entre nous, on ne le voit pas forcément spirituellement, mais c'est une belle réalité. En étudiant ce sujet, j'ai retrempé mes énergies ou ma réflexion dans le passé. En 480 avant Jésus-Christ, c'est la bataille des Thermopyles qui opposa 300 Spartiates à environ 100 000 Perses. C'est un des plus célèbres faits d'armes de l'histoire antique. Alors que les Perses tirer des flèches volées et enflammées sur les Spartiates, ceux-ci, 300 personnes, s'agenouillèrent l'un à côté de l'autre en levant leurs boucliers, formant ainsi un mur de protection. Ici, on est un peu plus de 300 maintenant, mais ensemble, pour aller plus loin dans les projets de Dieu, on a besoin d'être agenouillés, d'être collés les uns aux autres et de brandir le bouclier de la foi de telle sorte que quand l'ennemi va chercher à nous ébranler, à nous détruire, à nous atteindre et à nous faire du mal, il sera mis en échec. Quand je parle de flèches enflammées, à l'époque également, vous l'avez peut-être vu dans des films ici ou là, à l'époque, on trempait ces flèches dans un fluide combustible, on l'enflammait. On visait l'adversaire, et lorsque l'adversaire était touché, eh bien celui-ci s'enflammait, en plus eh bien d'être atteint dans son intégrité. On a besoin que les flèches ricochent. À un moment donné, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu parle d'un homme qui s'appelait Saül, qui est tombé au combat, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons pour laquelle il est tombé au combat, c'est qu'il lui manquait l'onction. Il a perdu l'onction, il a perdu l'esprit, quelque chose que nous ne pouvons pas fabriquer par nous-mêmes, quelque chose qui est indispensable pour évoluer dans notre vie spirituelle et chrétienne en vainqueur. Et Saül, la Bible dit que concernant son armure, son bouclier, l'huile a cessé de les oindre. L'huile a cessé d'oindre le bouclier de Saül. Quelle image misérable d'un homme qui aurait dû évoluer en vainqueur, qui a mal fini sa course. Et ce matin, je pourrais nous interpeller, nous dire « Gloire à Dieu, c'est fantastique, Dieu est là et Dieu est là, je le crois. » Mais on a besoin de réaliser que notre foi, la qualité de notre foi doit être renouvelée chaque jour, à chaque instant, en permanence. On ne peut pas vivre sur les expériences du passé. On ne peut même pas vivre sur les exploits du passé. Merci Seigneur pour hier. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de la grâce de Dieu, d'une huile fraîche, d'une onction fraîche, d'une foi nouvelle, du courage du lion. Amen. Aujourd'hui, j'ai besoin de forces nouvelles. Vous allez dire peut-être, est-ce que pasteur, tu as la crainte et tout ? J'aimerais vous dire non. Je n'ai pas peur, quoi. Je suis juste ému. Ému par la grandeur de ce que Dieu est capable de faire. Et en fait, ça, ça ne doit pas dépendre des circonstances de la vie. Notre foi ne doit pas être tributaire des circonstances. Trop d'entre nous, on est conditionnés par ce qui se passe, par la météo. On m'a dit bonjour, on ne m'a pas dit bonjour. On m'a fait la bise, on ne m'a pas fait la bise. Oh, il a dit quelque chose de mal sur moi. Et alors ? Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de nous. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur dit de moi. Et j'aime l'image de l'apôtre Paul. Il est en prison à la fin de sa vie. Il n'est pas dans un hôtel 4 étoiles. C'est un homme persécuté, un homme qui a subi le martyre toute sa vie, qui s'est battu comme un lion pour le royaume de Dieu. Et la parole du Seigneur nous dit que cet homme, en prison, va dire « Désormais, je suis prêt, j'ai gardé la foi, la couronne m'est réservée. Amen. » Il est convaincu que Dieu est à ses côtés. Amen. Et comme nous disait le don, sauf erreur, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. En fait, c'est fou, là. Mais cette vision-là, je l'ai vue dans mon esprit quand je suis arrivé à l'église il y a quelques années et que le Seigneur m'a dit « Levez-vous et bâtissez ». Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, il n'y a rien d'étonnant, le Seigneur l'avait vu, le pasteur l'avait vu déjà. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des choses qui sont faciles à dire et des choses qui sont plus difficiles à vivre. Par exemple, vous vivez un moment difficile dans votre emploi ou dans votre vie familiale. C'est des prophéties, là. Vous allez vivre des moments difficiles, vous aurez des tribulations, tout ça. Puis là, je viens et puis je vous dis, ne t'inquiète pas, ça va aller. Parce que la Bible dit... Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est facile à dire. C'est facile à dire quand je suis en vacances, que j'ai les pieds dans l'eau, au bord de la piscine de ma maman. Vous n'avez pas vu les photos, hein ? Mais j'ai eu les pieds et puis tout dans l'eau, n'est-ce pas ? Mais là, c'est des moments où on se dit, waouh, si la vie pouvait être comme ça. C'est comme les jeunes quand ils partent en colonie, ils reviennent « Ah, pasteur, on a été baptisés du Saint-Esprit, on a vécu des moments puissants !» Mais c'est juste impossible de ne pas vivre des moments puissants dans une colonie de vacances, avec Dieu en vacances. C'est facile. Mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais vous voyez, même le mot « vallée », la première lettre du mot « vallée », c'est un petit clin d'œil à Gigi, c'est un V comme victoire. Nos épreuves et nos vallées ne doivent pas nous définir. Parce que Dieu nous appelle non pas à mourir dans les vallées, mais il nous appelle à les traverser. Mais c'est facile à dire. Quand j'ai postulé 15 000 fois à la NPE et que je ne suis pas reconnu pour mes compétences, voyez-vous, que je ne suis pas mis ou exploité comme je devrais l'être, etc., etc., et qu'on vit des moments difficiles, c'est difficile. Il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles, n'est-ce pas ? Imaginez, par exemple, que, je ne sais pas, c'est peut-être le cas de quelqu'un ici, votre mari, votre femme vous trompe. Ça, c'est une vraie flèche. Parce que le diable n'aime pas l'unité. Il n'aime pas l'unité dans l'Église, mais il n'aime pas l'unité dans les foyers également. Alors c'est facile à dire, de venir, ne t'inquiète pas, ça va aller. Vous êtes d'accord avec moi que dans ces circonstances-là, il faut le plus de Dieu ? Il faut quelque chose de supérieur, quelque chose qui vient d'en haut. La flèche des mauvaises nouvelles, c'est quelque chose qui peut... Vous arrivez régulièrement, sur le plan de la santé, j'en passe. La flèche des remords, de l'échec. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis un être humain, quoi. Non, parce que peut-être certains d'entre vous vous en doutez. Vous savez pourquoi vous en doutez ? C'est que vous ne me connaissez pas. Mais vivez avec moi une semaine, vous allez dire, oh, le pasteur ! C'est un vrai de vrai, lui. Il est comme moi. Mais voyez-vous, face à l'échec de la vie, au regret, au remords, il y a deux options, celle de Judas ou celle de Pierre. Judas, lui, face à l'échec, s'est suicidé parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas cru dans la miséricorde de Dieu. L'apôtre Pierre, lui, avait besoin de progresser encore dans la qualité de son amour pour Dieu. Il aimait Dieu ou Jésus de façon sentimentale. Et il avait besoin de s'affermir, de se développer. Il avait besoin de réaliser que humainement, nous ne pouvons pas, même si on a de bonnes résolutions dans nos cœurs, nous ne pouvons pas être de bons chrétiens, des hommes et des femmes spirituels. On a besoin du Saint-Esprit pour cela. Et l'apôtre Pierre a été face à ses limites. Et c'est important que régulièrement le Seigneur nous mette face au pied du mur, nous mette au pied du mur et que nous soyons face à nos limites. Pourquoi ? Parce que ça nous amène, un, à lâcher prise et deux, à nous confier dans la personne du Saint-Esprit. Qui sommes-nous, nous, pour avoir la prétention qu'on peut être des canaux de bénédiction si l'Esprit de Dieu ne fait pas de nous des canaux de bénédiction ? Comment toucher un tel ou un tel ou un tel au travers de la prédication, même de la louange, durablement et faire fuir l'ennemi, si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit ? Et je suis tellement convaincu de cela que c'est dans la prière. Vous savez, Saül, pour parler, ne parler que de lui, Saül n'était pas un homme de prière. À la différence de David, qui était un homme plus que de prière, mais de communion avec Dieu. Saül, lui, a prié, a commencé à prier. La première fois où il a construit un autel, c'est parce qu'il était dans la galère. Et j'espère qu'il n'y a personne ici qui prie seulement quand ça ne va pas ou qui vient à l'église seulement quand ça ne va pas. On est appelé à aller à l'église, à aimer Dieu, non pas quand ça ne va pas, mais tout le temps. Et d'ailleurs, c'est plus difficile d'aimer Dieu quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, on a tendance à oublier le Seigneur, les choses de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans son ciel, il dit « Oh, celui-là, il a besoin d'une petite galère, ça va le bouger un peu. » Vous savez, là où est l'Église ? L'Église où est la plus forte ? L'Église est la plus forte dans les pays persécutés. Je ne parle pas la plus forte, je parle la plus spirituelle. Parce qu'il y a quelque chose qui doit mourir en nous, ça s'appelle la chair. Et au travers des épreuves, mes amis, une des choses que Dieu fait, c'est que notre foi est parfaite et épurée lorsque, eh bien, nous passons par les épreuves et les difficultés de la vie. Alors, comme Pierre ce matin, si tu as connu un échec cet été, j'aimerais te dire, et c'est tout le message de l'église de Saint-Étienne du Rouvray, cette église-là, c'est une église de restauration. C'est une église remplie de malades. Je me soigne. Vous savez ce que c'est le péché ? C'est un dysfonctionnement. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On est tous pécheurs. Et le péché nous a rendus dysfonctionnels, comme une machine qui s'emballe. Je connais une personne, moi. Je ne suis pas normal des fois. Je me dis, mais pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi je pense comme ça ? Alors, heureusement, le Seigneur vient et nous corrige et nous remet en phase. Ça va ? Je ne vous étonne pas en vous disant la vérité ? Mais cette église, c'est une église de restauration. Et c'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la tête baissée ce matin et que tu te sens nul, comme Pierre, il se sentait nul. Ah, pourtant j'avais dit haut et fort devant tous que même si je devais aller en prison et à la mort, jamais je ne te renierai. Et pourtant, une savonnette, une peau de banane, il est tombé. Mais la Bible dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Et croyez-moi, je ne sais pas s'il y a quelques religieux dans ce lieu. Attention, je vais vous faire mal. Je vais nous faire mal, parce qu'on a tous des religieux en nous. Jésus ne lui a pas fait la leçon. Jésus a été comme le père de la parabole du fils prodigue. Il l'a regardé, non pas d'un regard désapprobateur, mais je suis sûr que le regard que Pierre a croisé de notre Seigneur Jésus était un regard de compassion, de grâce et de restauration. Et ce qui a fait, ce qui fera la force de l'Église sans que celle-ci se compromette à ses valeurs, c'est qu'elle est un endroit où le pécheur désespéré puisse retrouver la paix, la joie et le bonheur. Si quelqu'un aujourd'hui venait me voir et me disait « C'est quoi, pasteur, ta vision pour les 100 ans à venir ?» Il n'y a personne qui réagit, ok. Ok. Mais moi, je l'ai, la vision, frère. Ma vision, c'est que ce lieu soit rempli, donc elle est déjà accomplie, gloire à Dieu, d'hommes et de femmes pécheurs qui vont se laisser transformer par la grâce, pas par la loi. Allô ? Pas par la loi ! Pas par le discours « il en faut un peu plus ». Il faut aller un peu plus à l'église, il faut jeûner un peu plus, il faut... Non, tout est grâce. Détends-toi, tout est accompli. Jésus à la croix n'a pas eu besoin de toi et de moi. Dieu, pour créer le monde et l'univers, n'a pas eu besoin d'Ivan Kassar. Dieu, pour créer le monde, a eu besoin de Dieu. C'est tout. Et Dieu nous a créés ensuite, le premier jour dans lequel il nous a créés, c'est le septième, le jour du repos. Amen. Après, il nous a dit, maintenant, mets-toi au boulot, cultive et garde le jardin. Mais voyez-vous, cette église, ma vision est celle-ci, c'est que nous sommes des pécheurs transformés par la grâce afin d'être des hommes et des femmes qui accomplissent la volonté de Dieu. Parce que ça n'est pas tout de dire « je connais la volonté de Dieu, je prie pour la volonté de Dieu ». Ceux qui sont fils et filles de Dieu, ce sont ceux qui vivent la volonté de Dieu. Et ce sont ceux qui seront sauvés. C'est quoi l'inverse de la foi ? C'est le doute, l'incrédulité, la résignation. Et ce matin, on n'est pas là pour s'attarder sur le doute, l'incrédulité et la résignation. Ce matin, on est là pour demander à Dieu qu'il nous renouvelle dans la foi. Alors j'aimerais, pour aller un petit peu plus loin ce matin dans la réflexion, faire un genre de test entre nous. Vous êtes d'accord ? On est entre nous. Et la question est celle-ci, comment puis-je honnêtement savoir si je suis encore dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5 dit ceci, « C'est un grand examen collectif et personnel. Examinez-vous vous-même. » C'est ce que nous faisons régulièrement lorsque nous prenons le pain et le vin du Seigneur. On se rappelle, on se commémore ce que Christ a accompli pour nous. Et Paul dit ceci, « Pour savoir si vous êtes dans la foi. » Éprouvez-vous vous-même. La question, en d'autres mots, suis-je équipé ce matin du bouclier de la foi ? Est-ce que j'ai revêtu cette arme spirituelle dans ma vie ? Premièrement, est-ce que aujourd'hui je suis dans le repos ? Est-ce que je suis détendu émotionnellement, psychologiquement, spirituellement ? Est-ce que je suis entré dans le repos de la foi ? Ce qui a tué les Hébreux dans le désert, ce n'est pas le manque de viande, le manque d'eau, la maladie, l'usure, je ne sais quoi. Ce qui a tué les Hébreux dans le désert, c'est l'incrédulité, c'est le doute. Et l'incrédulité et le doute sont deux choses différentes. On peut douter à certains moments de façon passagère. Mais l'incrédulité, c'est le doute à son paroxysme, c'est-à-dire c'est se positionner littéralement dans une position, mais Dieu ne va pas le faire, ce n'est pas possible. Souvenez-vous des espions face au pays promis, le discours qu'ils ont eu, la perspective qui a été la leur, un discours négatif, une perspective négative, ils n'avaient plus les yeux sur le Seigneur. Par contre, Josué et Caleb, ces deux-là, ils étaient les fameux irréductibles, comme les Gaulois Astérix et Obélix, vous savez ? Ils avaient mangé une potion magique, il y avait quelque chose qui se passait en eux. Non, non, non ! Moi, je le dis souvent, la foi, c'est quoi ? La foi procède d'un esprit. La foi procède d'un état d'esprit. Et c'est pour ça que Dieu dira, ces deux hommes-là, ils étaient animés d'un autre esprit. Caleb avait une autre mentalité, une autre perspective, et son discours était différent. Face à l'adversité, face aux géants, face à tout cela, il dira, il a fait taire le peuple. Il a littéralement dit, mais taisez-vous ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire à un frère, écoute là, tu m'en as assez dit ? Parce que la foi comme l'incrédulité, ça se transmet. Tais-toi. Taisez-vous ! Montons et emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs ! Amen ! Alléluia, pasteur Yvan, c'est bon ça. La seule chose, disait Roosevelt, dont il faut avoir peur, c'est la peur. Si j'ai trouvé le repos au milieu des circonstances adverses, alors je suis probablement dans la foi et revêtu du bouclier de la foi. Exactement comme notre Seigneur Jésus, qui dort dans la tempête, qui est imprenable, inaccessible à la noirceur environnante, à la pression du moment. Un pessimiste, a dit quelqu'un, voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je suis revêtu du bouclier de la foi. Quand je vois autrement, quand je parle autrement, quand je ressens autrement, quand je me comporte autrement. Imaginez un instant cette femme atteinte d'une perte de sang. Elle avait le droit de rien, cette femme. C'était une pauvre femme qui s'épuisait depuis 12 ans, nous dit la parole de Dieu. Mais cette femme avait un discours intérieur différent de son environnement. Elle se disait en elle-même, vous savez, on se parle, hein ? On se parle. Nos pensées sont des paroles que nous nous adressons à nous-mêmes. Et cette femme se parlait à l'intérieur. Elle se disait, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et les hommes de Dieu, Jésus, mais même les hommes de Dieu sont à la recherche de cette atmosphère-là. Si nous voulons voir des miracles dans l'Église, si nous voulons voir des miracles dans nos vies, on a besoin de créer au milieu de nous une atmosphère enfantine et de confiance et de foi en Dieu. Cette femme avait un discours pur, limpide en elle. Elle était convaincue que Jésus pouvait guérir. Amen. Et elle était convaincue que Jésus pouvait la guérir. Parce que des fois, on a la foi pour les autres, tu sais. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Allez, pasteur, ça va aller ce matin, gloire à Dieu et tout. » Mais il n'y a personne qui est à ma place. Venez à ma place 2 secondes et après, vous pourrez reparler d'un certain nombre de choses, n'est-ce pas ? Quel discours intérieur je me fais actuellement ? Encore une fois, ces choses-là se vérifient quand on passe par des moments d'épreuves et de difficultés. Et puis, je pense ceci, c'est que la véritable foi se vérifie lorsqu'on ose encore croire pour de grandes choses, rêver. Vous savez, les hommes de foi sont des rêveurs. Rêver de grandes choses après les traits enflammés du malin. C'est quoi la confiance en Dieu alors que je passe par des moments difficiles ? Ça s'appelle en psychologie la résilience. C'est la capacité de me refaire rapidement après avoir subi un choc. Et c'est exactement ça. Comment, dans quelle situation je suis ? Comment je me sens après avoir traversé tout ce que j'ai traversé ? Est-ce que je suis encore positif ? Est-ce que je suis encore enthousiaste ? Est-ce que je suis encore joyeux ? Est-ce que j'aime encore l'Église ? Amen. Ou est-ce que je suis devenu un vieux sceptique grincheux qui ne considère dans la vie que les défauts des gens ? Je pointe la prédication ce matin. Ah, la prédication 10 sur 10. La louange 5. Oh non, 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 moi ce matin j'ai trouvé la louange 10 sur 10, la prédication 5, même s'il a mis un peu du sien, là, il bougeait un peu trop, mais c'est ça ta vie. Oh, il y a un monde à gagner pour Jésus. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça notre mission. Et la manière dont nous nous comportons, le parfum que nous dégageons, va faire, oui ou non, la différence. La Bible dit qu'ils parlèrent de telle manière que beaucoup crurent. Il y a une manière, vous savez, vider les églises, très facile. Il y a les experts en vidant les églises, puis il y a les experts pour sauver des âmes. Priez pour moi. Je vais aller vers la fin. Quand on prend des coups, il y a deux choses à faire pour restituer à nos vies, retrouver dans nos vies, dans nos cœurs, une foi vivante, une foi dynamique, ce fameux bouclier qui va faire taire l'adversaire, les voix d'adversaire, les plans d'adversaire. Et moi, je déclare dans le nom de Jésus ce matin, dans ce lieu, l'adversaire est vaincu sur chaque personne dans ce lieu. L'adversaire est vaincu, Jésus est vainqueur. Jésus, dans ta vie, va avoir le dernier mot. N'aie pas peur, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur, Dieu t'aime. Dieu va prendre soin de toi, de tes circonstances. Il change les cœurs, mais il change aussi l'eau en vin. Il change les circonstances de nos vies. Jaébeth, c'est un homme qui a su rebondir après un drame dans sa vie. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais ça a touché sa petite enfance, de telle sorte que sa mère l'a appelé douleur. Mais cet homme a rebondi dans sa vie. Jaébeth, c'est quelqu'un qui a été près des livres, près des scribes. Quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Jaébeth n'a pas invoqué le Seigneur comme ça, du jour au lendemain, parce qu'il avait entendu parler de Dieu. La Bible dit que les scribes habitaient la ville de Jaébeth. Les scribes, c'était les copistes de l'époque, eh bien, qui recopiaient, si vous voulez, la Bible de façon très propre et avec beaucoup de rigueur. Et cet homme donc a sans doute étudié les livres de la parole de Dieu, a sans doute recherché la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Et un jour, en lisant la parole de Dieu, en s'imprégnant de l'Écriture, parce que la foi, elle vient, mais la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et cet homme, en s'imprégnant des livres, en s'imprégnant de la parole de Dieu, la Bible dit qu'à un moment donné, alors qu'on l'avait étiqueté, on avait dit, celui-ci ne réussira pas, celui-ci c'est douleur, il engendrera que de la douleur. C'est souvent comme ça. Ne nous faisons pas d'illusions, les gens qui vous font souffrir aujourd'hui sont sans doute des gens qui souffrent peu ou prou plus que vous. C'est logique. Quand on n'est pas bien dans notre peau, attention, on dégage une atmosphère irrespirable pour les autres. Alors la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, cet homme a fait une analyse sur sa vie assez juste, assez vraie. « Ok, je suis douleur. » Il a levé ses yeux vers le Seigneur. Il a dit, « Mais toi, Seigneur, tu es capable de changer, de réaiguiller ma vie. Avec toi, je ne vais pas dérailler comme le train à Marseille. Avec toi, Seigneur, tu vas me mettre sur les rails. Et avec toi, la destination qu'on m'avait prévue et programmée dès l'enfance, elle va changer. Amen. » Est-ce que vous croyez encore que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles ? Est-ce que c'est possible qu'un alcoolique ne boive plus ? Est-ce que c'est possible qu'un pornographique ou quelqu'un qui a des problèmes avec le sexe opposé soit délivré dans sa tête ? Oui ! Est-ce que c'est possible qu'un colérique devienne doux comme un agneau ? Oui, amen ! C'est possible, Dieu change notre nature. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que cet homme a invoqué le Dieu d'Israël. Il a invoqué Dieu en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et la Bible dit, « Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Il a rebondi. Cet été, je ne sais pas quel malheur a pu éventuellement t'arriver. Mon frère, ma sœur, tu peux rebondir. Cette année, je ne sais pas de quel ordre le trait enflammé de l'adversaire va venir te frapper, mais avec Dieu, tu peux rebondir. Et le deuxième élément que j'aimerais voir avec vous, c'est concernant la vie d'Asaph. Il faut non seulement invoquer, croire, mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut entrer plus en profondeur dans les parvis du Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester à une vie spirituelle superficielle. Vous voyez, on peut être dans l'artificiel. dans le superficiel. Mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai soif de profondeur avec Dieu. Et nos problèmes, nos crises intérieures, c'est un chantre. Oui, Dieu est bon pour Israël, psaume 73. Mais intérieurement, cet homme vivait un drame. Intérieurement, il était perturbé. Il chantait des cantiques, il ne vivait plus. Jusqu'au jour, nous dit l'Écriture dans le psaume 73, jusqu'au jour où il est entré, jusqu'au jour où il a pénétré les sanctuaires de Dieu. Et que là, il a pris conscience de certaines choses. Vous savez, la différence entre un incrédule et un homme de foi, c'est la perspective. C'est ce que l'on voit. Souvenez-vous de Élisée à Dothan, assiégé, on l'a chanté aussi, environné d'une multitude d'hommes qui voulaient sa peau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être tombé dans le traquenard pour qu'on vous fasse la peau, là. Mais lui, il y avait toute une armée qui était venue pour le détruire. Et l'homme de Dieu se lève après son collègue qui s'est levé, son propre collègue, Gehazi, il va le voir et dit « Homme de Dieu, c'est la folie, on est cuit, ils viennent nous enlever, comment on va faire ?» Et l'homme de Dieu, il est zen. Je ne sais pas, il ne fumait pas de la drogue. Hein. Je ne sais pas, vous, il y a une armée qui vient contre vous, faites quoi ? Allô ? Il y a des moments dans la vie où... Mais lui, pas du tout. Le gars, il est zen. Il dit, ok, fais-moi un café. Fais-moi un café. Ouvre les volets, là. Ah, ils sont là. C'est pas grave. Ça va aller. Tout va bien. Est-ce que c'est un martien, un extraterrestre ? Est-ce qu'il vit sur notre planète ? Oui, il vit dans le royaume. Il vit dans le royaume alors qu'il est dans l'Ancien Testament. Nous, on est baptisés du Saint-Esprit, de feu et tout, on a encore du mal à réaliser ce que Dieu est avec nous des fois. On est comme les disciples d'Emmaüs. Et Jésus est là, il nous accompagne, tout va bien, on est sauvés, gloire à Dieu, on va au ciel pour l'éternité, on peut remporter des victoires après des victoires, on est dans la victoire. Et lui, il se lève, il est zen. Perspective. Il va prier, il va dire « Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. » Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Peuple de Dieu, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Dans toutes les situations de la vie, à tous les problèmes de la vie, il y a toujours une solution en Dieu. Amen. On pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu. On peut acclamer le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. S'il y a un pianiste dans la salle, ça serait super. Alléluia. On va terminer dans quelques instants. Mais j'aimerais, avant de nous quitter, que le Saint-Esprit puisse souffler dans nos cœurs, un vent de foi, un vent de confiance. Parfois, notre confiance se fait effriter par l'adversité, l'érosion, vague après vague, combat après combat. Peut-être même que vous êtes venu dans cette église ce matin, bon, c'est bien, on va aller voir cette nouvelle église, mais votre tréfonds, votre fond est un fond qui a été entamé il y a un combat en vous, vous pourrez dire, comme cet homme, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il y a comme un antagonisme, une contradiction en vous. Vous savez, comme les disciples, ils voyaient Jésus, la Bible dit, mais ils eurent des doutes. C'est-à-dire, ils étaient face au surnaturel, à la résurrection, au miracle, mais il y avait quelque chose en eux. Et ce matin, ma prière, c'est Saint-Esprit, viens enlever les racines de doute. Viens enlever, Seigneur, les ombres en moi qui font que je ne peux pas me saisir de cette conscience du spirituel. Mon ami, il y a un monde spirituel. Il y a un ciel, un enfer, il y a des anges, des démons. Il y a une lutte. Et tout ça n'est pas le produit d'un travail humain. C'est le produit d'un combat spirituel que nous remportons jour après jour. Hier soir, j'ai convoqué une réunion de prière avec des gens qui sont inscrits spécialement dans un groupe d'intercession. On passait là, on a fait toutes les chaises, on a prié pour les chaises, un peu comme des malades. Tu sais. On priait, Seigneur, ah, tu bénis les gens qui vont être là demain. Mais c'était bon. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on croit qu'il y a des enjeux à la vie, à la mort, qu'il y a un diable. La Bible dit que les gens sont incrédules parce que le diable a aveuglé l'intelligence des gens, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Quand vous parlez avec un collègue au travail, vous dites « Jésus est vivant !» Jésus est vivant, non. La Bible dit que c'est le diable qui aveugle son intelligence. Il avance vers un précipice qui s'appelle l'éternité sans Dieu, et il n'a pas conscience qu'il va tomber dans un précipice pour l'éternité. Et nous, on vient avec le message le plus important de la vie. On a besoin du Saint-Esprit, mes amis. On a besoin de la prière. On a besoin d'être des guerriers pour Dieu. Pas des farfelus, des hérétiques. On a besoin de comprendre que quand l'épreuve vient, et elle viendra, il faut être positionné, il faut être fort et dire à la voix de la peur, Dieu est avec moi. Sa parole aura raison dans ma vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ferme les yeux, on demande à Dieu de bénir cette fin de culte? Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Je ne vais pas faire d'appel, mais on prie ensemble. Merci pour ton amour. Merci parce que tu vas ranimer la foi. Tu permets ce matin que nous soyons tous et toutes équipés convenablement et que quand les oppositions viennent, elles confrontent la puissance de notre confiance en Dieu. Seigneur, tu nous rends inébranlables, tu nous rends forts par ta force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Non, je ne serai pas faible. Non, je ne serai pas insuffisant. Non, je ne me laisserai pas avoir par les mensonges et les stratégies démoniaques. N'ignorons pas ces desseins, mes amis. Derrière les tentations soudaines, derrière les attaques du lion, il y a toujours des destinées qui se font briser, voler. Accroche-toi ce matin. Quand le diable te dit « transforme ces pierres en pain », quand le diable te dit « vas-y, fais ça avec toi », c'est pas pareil. Résiste à l'ennemi, la Bible dit, il fuira loin de toi. Mais comment? Avec une foi ferme, une foi solide. La foi, c'est comme un muscle, il faut l'exercer, il faut l'appliquer régulièrement. Sinon, elle va s'atrophier. Et Dieu permet peut-être en ce moment, au travers de circonstances adverses, quelques difficultés, quelques vents contraires, afin de développer ta foi. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens, ranime un cœur, ranime une vie, ranime une foi dans ce lieu. Ranime la foi de ton peuple, Seigneur. Donne-nous d'être des croyants, mais pour des grandes choses, Seigneur. Viens ouvrir, illuminer les yeux de notre cœur. Viens nous permettre ce matin de saisir ta vérité, de saisir tes plans et de chasser l'ennemi au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je prends autorité dans le nom de Jésus sur toutes les puissances des ténèbres qui agissent dans la vie des uns et des autres. Seigneur, et je proclame sur leur vie la délivrance. Je proclame sur leur vie la joie. Je proclame sur leur vie la guérison. Je proclame sur leur vie la santé. Je proclame sur leur vie la prospérité. Oui, Dieu te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ma foi dit, je serai guéri. Amen. Ma foi dit, je serai guéri. Dis-le au fond de ton cœur. Je serai guéri. Je vais combattre, je reprends les armes. Je m'étais arrêté pendant un temps, mais maintenant je veux combattre, je veux rejoindre l'armée de Dieu. Et en prière, et en intercession, et dans la foi, je veux appeler ma famille inconvertie. Je veux appeler mes collègues de travail. Je veux appeler cette ville, Seigneur, à la connaissance de Jésus. Alléluia! Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen.
Nous espérons que vous avez été encouragé par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes réunions.